quand j'avais discuté avec toi, je fais des conférences sur les mathématiciens, puis il y a quand même des gens qui viennent, alors j'en suis très heureux. Parce que quand on dit mathématiques, ça fait fuir pas mal de gens, mais vous êtes là, donc ça prouve que ça ne fait pas fuir tout le monde. Quand je lui ai parlé, j'avais proposé deux noms. J'avais proposé Giuseppe Peano, qui est un mathématicien que je trouvais assez extraordinaire, qui vivait lui au contraire vers... il est né en 1858 et mort en 1932, et qui a été un pédagogue, enfin, aussi une personnalité très importante, mais il risquait d'avoir un peu trop de mathématiques. Bon, vous êtes venu pour faire un peu de mathématiques, mais rassurez-vous, il n'y en aura pas trop. Il n'y en aura pas trop dans cette session. Alors juste avant de commencer, je vais oublier sinon, il y a dans la salle un mathématicien encore plus fou que moi, il s'appelle Jean-Christophe Delédic. Et alors, il est président de la Nuit des Maths, c'est qui est un festival qu'il organise. Moi, je suis vice-président, mais c'est le président qui fait tout dans cette association, c'est bien. Et qui organise des événements autour des mathématiques, mais très drôles, très amusants. Ça peut être du théâtre, de la magie, des tours. Et il y aura dans notre région, ça se fait sur Blois, Tours, Main-sur-Loire, Vendôme, Main-sur-Loire et Maraud-au-Pré. Pourquoi Maraud-au-Pré, je ne sais pas. Et d'autre part, il est venu, il est aussi libraire, puisqu'il a la librairie des mathématiques, il est venu avec quelques ouvrages. Si c'est les miens, je suis prêt à en dédicacer, mais je ne voulais pas du tirage de manche. Et aussi, un de ceux qui m'ont aidé à faire cette conférence, qui s'appelle « La formule secrète » de Fabio Toscano. Alors, le titre italien, je ne me rappelle plus. Ça va être... bon, peu importe. Vous trouvez, il existe aussi en italien, mais il y a pas mal de gens qui doivent bien parler l'italien, donc vous pouvez aussi l'avoir en italien, et qui raconte un petit peu cette histoire. Puis, Girolamo Cardano a écrit, en latin, « De propria habita ». Il a raconté sa vie, donc ça nous permet d'avoir pas mal de renseignements. C'est vrai qu'au XVIe siècle, c'est déjà plus difficile d'avoir des renseignements sur ceci. Ceci étant, c'est lui qui a raconté. Bon, on a d'autres manières de recroiser les choses, parce que quelqu'un qui a quand même été très connu à l'époque. Donc on connaît pas mal de choses sur sa vie, mais il y a beaucoup d'autres documents. Et le livre de Toscano est très très bien documenté, et il y a toutes les références. Vraiment, c'est un énorme travail qu'il a fait. Et puis écrit de façon assez humoristique, parce que vous verrez que la vie de Cardan n'est pas banale. N'est pas banale, voilà. Donc, bon, j'ai pas de papier, donc j'ai un peu mis des choses pour me rappeler l'ordre, moi, dans lequel j'allais dire les choses. Donc, le père de Cardan, Fazio, Cardan, c'est le nom d'un village qui s'appelle Cardano, maintenant ça s'appelle Cardano del Campo, c'est à 30 km au nord-ouest de Milan, mais c'est pas là qu'est né Cardan, en fait, et il est né à Pavie. Son père, Fazio, s'était épris d'une veuve qui s'appelait Chiara. Lui avait 56 ans, la veuve avait 36 ans, et elle avait déjà mère de trois enfants. Fazio était à la fois un juriste reconnu de haut niveau et aussi passionné par les mathématiques. C'était un ami de Léonard de Vinci, pour faire le lien. Vous savez que Léonard de Vinci, après avoir habité près de Florence et a travaillé à l'atelier de Verrocchio, est venu à Milan. Et c'est là où il a commencé à s'intéresser aux sciences et aux mathématiques et essayer de trouver un rapport entre les maths et la peinture. Et à Milan, il a rencontré un mathématicien qui s'appelait Luca Pacioli, qui était un mathématicien dans les grands mathématiciens de l'époque, et qui, les deux hommes ont énormément échangé. Alors, je ne suis pas là pour parler de Léonard de Vinci, je crois que d'autres en parleront, mais c'est en lien quand même avec ceci. Avaient énormément échangé par rapport aux mathématiques, et c'est là que Léonard de Vinci a vu que normalement, enfin pour lui, la peinture s'expliquait par les mathématiques, d'où la perspective, etc. Mais la perspective, il y en avait trois façons de faire. Je ne fais pas une conférence sur Léonard de Vinci, mais c'est quand même intéressant. Et avec Pacioli, il a écrit un livre qui s'appelle « De divine proportione »,« De divina, de divine proportione », dans lequel il explique la perspective. En fait, avant lui, Alberti, Piero della Francesca en avait déjà parlé, mais bon, il le refait très bien en mathématiques. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Léonard de Vinci a illustré ce livre-là. Et Fazio était dans ce petit groupe, etc., donc a contacté ces gens-là, et c'est comme ça qu'il s'est imprégné de mathématiques. Alors, bon, bah, il s'est pris d'une jeune veuve, mais il ne vit pas avec elle. Donc, d'un coup, elle est enceinte, c'est ennuyeux, il essaye d'avorter, ça a raté. Et donc, le 24 septembre 1501, est né Girolamo Cardano, mais il est né sans vie, vraiment, il croyait qu'il allait mourir. Donc l'idée, la bonne idée, bon, là je vais vanter un peu le vin parce que je suis maire de Maraud-au-Pré. On l'a trempé dans un bain chaud et comme dit Cardan, d'autres y seraient restés, mais lui, il a survécu. Voilà. Donc on lui a évidemment mis en nourrice. Il se trouve que les trois enfants de Chiara, donc la maîtresse de Fazio, les trois enfants sont morts assez rapidement de la peste. Cardan y échapper, mais aussi encore grâce à un bain de vinaigre chaud cette fois-ci, aux Orléanais. Et notre petit Cardan est né, une enfance assez malheureuse, parce que ses parents, avant, pendant les 7 premières années de sa vie, ses parents, paraît-il, le battaient régulièrement, c'était assez abominable. Et quand ils sont mis à vivre ensemble, donc quand Cardan avait 7 ans, donc vers 1508, ça a un peu changé, mais donc le père de Cardan l'a emmené dans ses tournées qu'il faisait, et Cardan l'a vécu vraiment comme étant le larbin de son père, et ça lui a quand même... Il a très mal vécu encore. Cardan est un individu absolument passionnant, mais pas très sympathique, et assez râleur de manière générale. Hein. Ceci étant, en se promenant avec son père lui a appris les mathématiques et l'astrologie. C'est là où on voit qu'on est à une période charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Alors 1500, début du XVIe siècle, on est plus d'un siècle avant Descartes. Hein, Descartes, l'esprit de la méthode, c'est 1637. Là, donc on est vers 1510, 1520, on est à plus d'un siècle avant Descartes. Et vous verrez avec Cardan, on est empêtré dans les croyances magiques et en même temps dans la science. Et là, c'est une période qui paraît très étrange à nos yeux. Et c'est intéressant, on comprend pourquoi Descartes c'était lumineux par rapport à ce qu'on voit. Nous, ça nous paraît banal qu'on nous dise qu'il y a une démarche scientifique, etc. Enfin, bon, c'est bien expliqué, mais ça nous paraît totalement banal. Quand on voit ce qu'étaient les savants à l'époque, même les savants qui trouvaient des choses, ce n'est plus banal du tout. Donc, c'est comme ça que... Là, il y a une erreur, c'est sa mère lui enseigne la musique. C'est sa mère, mais c'est pour ça que je remis... Excusez-moi, j'ai une petite faute. C'est sa mère lui enseigne la musique. Et puis, il devient étudiant à l'université de Padoue, il vit à 17 ans, donc en 1518. La médecine, mais en même temps, il fait aussi des mathématiques, et donc il s'initie à tout ça. Donc c'est un étudiant qui commence en plus, parce qu'il a des gros besoins financiers, et il commence à jouer. Il commence à jouer, surtout des jeux de dés, et comme il dit, il jouait pratiquement tous les jours. Quand il dit à jouer, c'est à jouer de l'argent. Hein. Alors, il était assez malin, et il calculait bien, vous en doutez, et il avait inventé un peu des stratégies pour gagner un peu plus souvent qu'il ne perdait. Donc il gagne plutôt de l'argent, mais des fois il perd quand même. Alors, il sort en 1526 son doctorat, il essaye d'être à Milan, parce que Milan c'est la grande ville, la grande cité des Sforza, c'était très, très prestigieux, il y avait une forte clientèle. Mais alors d'après lui, c'est parce qu'il était un enfant illégitime qu'il n'a pas été accepté par les autres médecins. Et donc on lui a interdit d'exercer la médecine à Milan, et donc il était dans un petit village qui s'appelait Sacco Lungo, enfin petit village, je ne sais pas exactement la taille. Et en même temps, il a donné des cours à l'université de Padoue, il essayait de gagner de l'argent un petit peu comme il pouvait. Et il devient médecin au chapitre de Saint-Ambroise, il exerce la médecine, et il s'empresse évidemment d'écrire un livre qui s'appelle « De malo recensurum medicorum usu libellus ». Oui, c'est plus tard qu'il l'a écrit. Où il dit tout le mal des médecins qui étaient en place, je sais pas, vous voyez, donc il se met aussi beaucoup d'ennemis sur le dos. Et en particulier, avec cette phrase que j'aime bien, la réputation d'un médecin d'aujourd'hui ne vient pas des soins qu'il apporte à ses patients, ni des guérisons qu'il obtient chez ses malades, mais tient à ses belles manières, à son beau langage, à ses relations mondaines, à la livrée de ses domestiques, à la somptuosité de sa voiture, de ses vêtements, à son élégance, bref, à tout ce qui est artificiel et sans valeur dans le domaine de la santé. Voilà. Donc oui, il s'est fait beaucoup d'amis, quand vous vous en doutez. Alors, on raconte plein d'histoires sur Cardan, enfin, il raconte plein d'histoires sur sa vie tumultueuse en particulier. Une fois, il jouait au dé, sans doute, avec un sénateur, et il s'est aperçu que le gars trichait. Alors là, il a sorti un pistolet, ou un couteau, il lui a tiré dessus, il a estropié, etc. C'est très mal terminé. Il s'est sauvé, il est parti en gondole sur la lagune, et là, d'un coup, le bateau a commencé à, en voulant reprendre pied, commence à couler. Heureusement, il y a un bateau qui arrive. Et qui est dans le bateau, le sénateur en question. Ça commence à chauffer. Voilà. Il y a des tas d'histoires de ce genre autour de Cardan et de ses frasques permanentes entre son goût du jeu, sans doute aussi de la boisson. Et donc il gagnait de l'argent, il en perdait aussi beaucoup, il en dépensait beaucoup. Et c'était une vie assez difficile. Alors, avant de vous parler de mathématiques, parce que je pense que vous attendez avec impatience les mathématiques dans l'affaire, voilà. Donc, je vais parler un petit peu de sa vie. Donc, je vais aller un peu plus loin que ce que je vais revenir un petit peu en arrière après. Donc, en 1538, il est enfin admis à l'université de Milan pour faire des cours d'abord et ensuite comme médecin. Et à partir du moment où il est pris comme médecin à Milan, hein, parce qu'ils avaient enlevé le fait que si on était enfant illégitime, on n'avait pas le droit d'exercer, d'un coup, il peut exercer à Milan. Et là, d'un coup, le succès en tant que médecin, sans doute à moitié médecin, à moitié astrologue, le succès devient fantastique et il est appelé de tout le monde, ce qui en plus met de la jalousie parmi les autres médecins. Et sans doute avait-il un contact extraordinaire, une aura, qui fait qu'avoir pour médecin Cardan, c'était absolument fantastique. Et donc, le voilà médecin, mais il se met à s'intéresser vraiment à faire des mathématiques. Il fait un premier ouvrage, comme vous vous doutez que c'est à la fois pour de l'arithmétique et un certain nombre de choses sur les mesures de différentes. J'ai pas lu ce livre, je le dis très franchement. Et donc, il commence à s'intéresser aux mathématiques. Et alors, je vais vous parler de Tartaglia après. Donc, je vais en reparler de la rencontre avec Tartaglia, vous verrez qui c'est. Par contre, je ne reviendrai pas sur les autres inventions, parce que... Donc, il a fait d'abord un perfectionnement de la chambre noire. C'est Léonard de Vinci qui a été le premier, dit-on. Dans l'Antiquité, quelques-uns avaient vu aussi le fait qu'en passant la lumière par un vraiment tout petit trou qui permettait que la lumière arrive que dans une direction, on voyait l'image en inversé de l'autre côté. C'est le principe de la photographie avec le négatif en impression inversée. Mais lui, il a amélioré les choses par rapport à l'entrée dans la chambre noire. Je ne me rappelle plus le nom exact que ça connaît, c'est un mot technique. Et donc, il a amélioré le phénomène de la chambre noire. Donc, c'est une de ses premières inventions. Après, pour rendre service à Charles Quint, il fallait que son carrosse soit bien souple et bien suspendu. Et il a inventé ce qu'on appelle la suspension de Cardan l'année suivante. Alors, 1555, parution d'Ars Magna, j'y reviendrai aussi. Et les deux autres, donc 1546, le décès de son épouse. Je pense qu'il n'en a pas eu trop de regrets parce que parmi les quatre drames de sa vie, il y avait son épouse. Donc, voilà. Je vous dirai les trois autres, on les verra plus tard. Et puis, cet ouvrage en 1550, dans lequel on voit la description du joint de Cardan, est-ce que c'est lui qui l'a inventé ou est-ce qu'il a repris, le décrit. En tout cas, c'est de lui, après que le nom a été donné, et Claude vous a expliqué à quoi ça servait. Et puis, c'est aussi dans ce livre, c'est un peu ce livre, en fait, qui se veut une vision du monde, vision d'un monde vivant et en évolution. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré un peu de Léonard de Vinci, qui avait vu dans la géologie un monde qui bougeait, c'est-à-dire que Léonard de Vinci dit que les montagnes ont dû changer, évoluer, enfin les montagnes, les reliefs ont dû évoluer, ce qui était très très nouveau à l'époque. Et lui, Cardan le dit aussi pour les espèces. Et donc après, il y a des choses un peu rocambolesques, il voit descendre les loups se transforment en chiens, les chiens en loups, enfin des trucs. Mais c'est le premier, bien avant Lamarck, puisque Lamarck c'est début du 19e siècle, il parle de la transformation des espèces. Alors Lamarck, après Darwin a détrôné la remarque, quoique certains disent que Lamarck n'avait pas tout à fait tort, mais bon, on n'est pas là pour en parler, mais c'est le premier qui parle de transformation des espèces. Mais dans ces livres-là, aussi, vous voyez une vision du monde complètement fantasmagorique, etc. Et comme disait un savant arabe, Al-Biruni, en parlant de ce qu'il voyait en Inde, c'est vraiment des joyaux parmi des crottes de chameaux. Dans ce livre-là, il y a quelques petites choses qu'on peut voir comme complètement visionnaires, et au milieu, il y a un tas de choses qui nous paraissent complètement absurdes et qui ne survivent pas vraiment même au siècle de Cardan. Enfin, voilà. Donc voilà pour voir un petit peu au niveau des choses dont je ne parlerai pas à part le début, mais dont il est important de connaître quand on parle de Cardan. Alors on va passer aux mathématiques. La folle épopée des équations. Vous n'auriez jamais pensé que ça pouvait être quelque chose une fois l'épopée. Je ne vais pas en parler tout parce que ça se déroule sur 8 siècles, mais c'est une conférence que j'avais faite et j'avais bien aimé le titre. Vous avez à gauche Al-Khwarizmi, mathématicien arabe du début du 9e siècle. Au centre, c'est Tartaglia, dont je vais parler. Et à droite, c'est Évariste Galois, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors pourquoi ces trois-là? Bon, je ne parlerai pas juste très brièvement du premier et du troisième. Pour ceux qui ont fait un peu de maths et qui s'en souviennent, l'équation du second degré, qu'est-ce que c'est une équation de degré? C'est l'inconnu est mise au carré. Mais je vais en reparler. Et il y a une résolution simple qui part cette méthode-là, avec une formule simple qui était déjà connue, grosso modo, par Al-Khwarizmi, un mathématicien, donc au début du 9e siècle. Évariste Galois, c'est celui qui a, enfin, un autre avec Abel, pour les équations du 5e degré. Mais j'en reparlerai très brièvement, parce que c'est pas le but. Mais d'abord, il y en a peut-être qui ne connaissent pas bien les mathématiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation? Voilà. Alors la première, c'est un truc qu'on vous revoit assez souvent, vous voyez, un jeune homme de 21 ans demande son âge à un autre, ce dernier lui répond, j'ai deux fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez, mais quel âge a-t-il? Alors quand on commence à tout emmêler, on le voit, alors qu'est-ce qu'on fait? On va dire que X c'est l'âge qu'on cherche, on l'appelle X, c'est une idée de Descartes, mais qu'il a repris sans doute aux Arabes, et donc... X, ça va être deux fois, alors 21 moins la différence d'âge, etc. Et on trouve que 3x égale 84. C'est ça une équation du premier degré. l'inconnu, c'est x. Alors après, on trouve x égale 84 divisé par 3, c'est-à-dire 28. Donc il avait 28 ans quand l'autre a 21 ans. Vous pouvez vérifier ensuite. Hein. J'ai deux fois l'âge que donc il a 28 ans, que vous aviez. Donc l'âge que vous aviez, ça devait être 14 ans. Quand j'avais l'âge que vous avez, quand j'avais 21 ans. Quand il avait 21 ans, c'était 7 ans en avant. L'autre qui a 21 ans avait 14 ans. Donc deux fois l'âge qu'il a à 28 ans. Donc c'est une équation du premier degré. Alors, ben une autre, bon, on ne va pas faire toutes les équations. Celle-là a été prise dans le papyrus de Rhind, c'est-à-dire du temps des Égyptiens anciens. Vous voyez, elle a plus de 3000 ans. Quantité, son quart lui est ajouté, elle devient 15. Dans celle-là, le nombre plus son quart, donc 5 quarts de x égale 15, donc x égale 12. Bon, enfin, passons. Pour dire premier degré, c'est que x est puissance 5. Alors maintenant, second degré. Alors, là, j'ai additionné la surface et le côté de mon carré. Alors attention, on est chez les Babyloniens là. Donc 45 minutes, ils étaient en base 60. C'est 0,75. Donc ça nous dit que le carré plus le nombre, ça fait 0,75. Donc on trouve x égale 0,5. Et alors Al-Razmi, alors il disait 3 racines et 4 en nombre simple égale le carré. Alors attention, il appelait la racine. Ça vient des Indiens, le mot racine. Vous avez entendu la racine carrée, etc. Pourquoi on appelle ça une racine? Parce que c'est la chose qui est cachée. C'est la chose qu'on ne voit pas, comme les racines d'un arbre. Et donc, la chose qui est cachée, on l'appelle la racine. Et donc, c'est les Indiens qui ont pris le mot indien, je ne me souviens plus, pour dire racine. Les Arabes l'ont traduit en arabe, et après, on l'a traduit en latin, radix, et puis après, en français, racine. Et puis, dans chaque langue, on a pris le mot de la racine, c'est la chose qu'on cherche, parce qu'on ne la connaît pas, elle est cachée. Voilà. Bon, de second degré, vous voyez, parce que le carré, le côté d'un carré, c'est le produit du côté par le côté. Donc, c'est la puissance 2. Bon, je passe vite, c'est comment on les résout. Vous voyez, la première, on appelle ça factoriser, donc on voit que c'est x égale 1, x égale 3 marche, x égale 2, donc il peut y avoir deux solutions, une solution ou aucune solution. Et après, il y a le degré 3, vous doutez. Alors, je ne vais pas donner d'exemple sur le degré 3, on pourra raconter avec une petite histoire là encore. Et c'est là, celle-ci c'est facile parce qu'on voit que 1, 2, 3 sont solutions. Vous remplacez x par 1 et vous vérifierez que ça fait 0. Vous le remplacez par 2, ça fait aussi 0. Vous le remplacez par 3, ça fait aussi 0. Mais il n'y en a pas d'autre. S'il y a 2 degrés 3, il y a au plus 3 racines. S'il y a 2 degrés 2, au plus 2 racines. Degré 1, au plus 1 racine. Rassurez-vous, on ne va pas faire beaucoup plus de maths ici. Et on va passer au dénommé Tartaglia. Parce que Tartaglia et Cardan, il faut voir que ça a été une lutte infâme. Donc ce malheureux, alors on va vous dire tout de bien des Français allant conquérir le nord de l'Italie, le chevalier Bayard, Gaston de Foix, etc., nos valeureux militaires. Donc voilà, on va avoir une image un petit peu différente des conquêtes françaises. Donc je crois que c'est en 1509, les troupes de Louis XII arrivent en Italie du Nord et s'emparent d'un certain nombre de villes, dont la ville de Brescia, et s'y comportent vraiment très très mal. Et très rapidement, la population, alors Brescia jusque-là était gérée par les Vénitiens, dépendait de la Sérénissime République, et ils se rebellent, ils font appel aux Vénitiens, Gaston de Foix arrive aussitôt, leur demande de se rendre, ils refusent, et à ce moment-là, les Français entrent dans la ville, et font un carnage absolument épouvantable. Un grand nombre de personnes se réfugient dans le dôme, dont le gamin, qui était encore un gamin, puisque 1512, il avait 13 ans, quoi. Tartaglia, avec sa mère, et avec un glaive, un soldat français lui transperce à 3 reprises le visage, et donc Tartagliare veut dire bégayer. Et d'ailleurs, on le verra toujours avec une barbe, parce qu'il veut masquer ses blessures. Et sa mère, d'un amour maternel fou, le sauve comme elle peut. Son père est tué dans les affaires, donc le voilà, en plus sa mère est très pauvre. Et à 13 ans, avec ce balafre épouvantable, ses blessures épouvantables, et il se fait appeler Tartaglia pour bonne mémoire de cette pièce de disgrâce. Voilà, c'est une belle phrase. Alors, Tartaglia se trouve être très très bon, on voit tout de suite qu'il est très bon en mathématiques, mais sa mère n'a pas assez d'argent pour payer l'école suffisamment loin. Alors elle payait le début de l'année, alors on payait le tiers de l'école où il allait, le tiers du prix pour l'entrée, le tiers du prix pour apprendre à l'alphabet jusqu'à la lettre K, et puis le dernier tiers à la fin. Donc il apprenait jusqu'à la lettre K. Il voulait en général quelques craies. Il paraît même qu'il allait faire des équations sur les tombes d'un cimetière, ce qui n'est pas très très bien. Et Et comme ça, il se passionne, et puis il arrive à se procurer des livres de mathématiciens célèbres, comme Euclide, Apollonius, et il apprend le latin, évidemment, ces livres étaient... Euclide est connu en traduction latine, et Apollonius aussi, je pense, il apprend le latin, et c'est comme ça qu'il s'instruit aux mathématiques, comme ça, tout seul, en lisant ses livres en latin, alors qu'il est d'une famille pauvre, etc. Enfin, quelque chose d'assez extraordinaire. Et alors, pour vivre, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il faut vous placer dans cette période où le commerce se développe énormément, surtout en Italie du Nord, mais dans toute l'Europe. Et c'est donc à ce moment-là qu'on a besoin de bien compter. Donc, il y a en Italie du Nord ce qu'on appelle des maîtres d'abac. Alors, l'abac, au départ, c'est le boulier, mais là, c'était bien plus général. Des gens qui avaient une certaine notoriété, pour des compétences, évidemment, en calcul, et les artisans, les commerçants venaient les voir, sans doute pour faire leur compte, leur apprendre aussi à compter. Le premier maître d'abac, il est bien avant, ça a commencé, il s'appelle Fibonacci, ou Léonard de Pise, il est connu pour des fameuses suites, qui permettent d'avoir le nombre d'or, et puis des choses avec des lapins, vous avez peut-être entendu parler de ça, et ça s'est perpétué comme ceci. Et en même temps, ils apprenaient aux gens à utiliser les chiffres arabes, qui sont beaucoup plus simples, parce qu'avec les chiffres romains, on ne peut pas compter. On ne peut pas faire d'algorithme, si vous voulez. Algorithme, mot qui vient du nom d'Al-Khwarizmi, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on ne peut pas faire d'algorithme, c'est-à-dire de méthode comme on a appris en classe, comme ça, on dit 3 plus 5 égale 8, 7 plus 4 égale 11, je pose 1, je retiens 1. Ça, c'est un algorithme d'addition. Ça n'existe pas avec les chiffres romains, donc on calcule sur des bouliers, mais c'est assez imprécis. Donc ces gens-là apprennent, et c'est cette période-là où les chiffres qu'on appelle arabes, enfin les chiffres qu'on utilise maintenant, s'implantent dans toute l'Europe occidentale grâce à des gens comme lui. Et parallèlement, il y avait des tournois de mathématiques, en particulier à Bologne, mais il y en avait aussi à Venise, dans les villes, et c'était très prisé. Donc les plus grands maîtres d'abac s'affrontaient et ils se posaient des questions. Alors il fallait que, quand ils s'affrontaient à deux, il faut que l'un pose une question à l'autre, mais celui qui posait la question devait savoir résoudre plus que juste la réponse, résoudre. Et la première qu'il fait, c'est un dénommé Zoané de Tonini d'Accoy, qui lance un défi en 1530 à Tartaglia, trouvez-moi un nombre qui multiplié par sa racine plus 3 fois 5, on aboutissait à une équation de degré 3, et il lui en pose 2 en fait, il lui en pose 2, et en fait il était malhonnête parce que lui il ne savait pas la réponse, il ne savait pas faire, mais il a fait semblant qu'il savait la faire. Et Tartaglia le trouve très rapidement. En fait, il avait la formule, vous voyez, je vous ai montré qu'il y avait une formule pour l'équation de degré 2, et le dénommé Pacioli, dont j'ai parlé tout à l'heure, le mathématicien célèbre qui était mis, avait affirmé qu'il n'existait aucune formule, qu'il n'était pas possible de trouver une formule pour le degré 3. Donc, vu sa compétence et sa notoriété, tout le monde était persuadé qu'il n'y avait pas de formule, c'est pas la peine d'en chercher une. Et Tartaglia en connaissait une, on prétendait qu'il en avait trouvé une. Mais évidemment, pour gagner ses tournois, il ne voulait surtout pas la révéler. Alors après, on entend, alors là c'était encore plus sérieux, à Venise, Antonio Maria Fior, qui lui était vraiment un maître d'abac de grande qualité, lance un défi à Tartaglia, et chacun donne 30 équations du troisième degré à trouver. Alors évidemment, le malheureux Antonio Maria Fior, qui lui avait une certaine notoriété mathématique, n'y arrive pas. Par contre, Tartaglia qui avait sa formule, ben, il utilise sa formule, et puis, il trouve les 30. La victoire, c'était celui qui perdait, celui qui ne trouvait pas, devait offrir un banquet à l'autre. Et donc, normalement, Tartaglia aurait dû gagner 30 banquets.
Par équation.
Un par équation. Donc, il aurait dû avoir 30 banquets, il en a renoncé. Peut-être avait-il des problèmes de ligne, l'histoire ne le dit pas. Voilà. Et donc, du coup, la notoriété de Tartaglia devient très très grande. Donc, il gagne d'ailleurs, du coup, bien sa vie avec ça. Et... Ben vous voulez peut-être la formule. Là voilà. Là voilà. C'est pour ça qu'on ne l'apprend même pas en licence de mathématiques. Ben avec les ordinateurs, maintenant on peut trouver ça à toute allure. Mais voilà la formule. Et en plus, vous voyez l'équation, on va la donner avec des paramètres P et Q. Et donc il y a P et Q qui rentrent. Mais vous voyez apparaître deux lettres, U et V. U et V, qui sont des termes intermédiaires qu'on introduit. Et l'idée, c'est en remplaçant ceci, enfin certaines choses par UV, je ne vais pas vous le détailler, ce serait compliqué et pas passionnant. En remplaçant par UV, on se ramène à une équation qui est plus que du deuxième degré, et qu'on sait résoudre, on a la formule. Donc de le troisième degré, on se ramène au second degré, et donc tout va bien, quoi. On trouve comment ça va. Alors en fait, du coup j'ai remis la formule secrète, le livre alors en français et en italien, donc c'est bien la formula secreta. Alors lui il a bien mis Tartaglia, Cardan, le duel mathématique, qui a enflammé l'Italie de la Renaissance. Oui, c'est marqué aussi. Et voilà. Donc ça a bien été traduit. Et alors, Cardan, lui aussi s'intéressait aux mathématiques, je vous dis, à partir de ce moment-là, 1538, 1539, il demande à rencontrer Tartaglia, parce qu'il est en train de vouloir faire un ouvrage dans lequel il y aurait toutes les connaissances mathématiques. Et il comptait mettre les résolutions d'équations de degré 2, qui était quand même encore mal connu du grand public, si j'ose dire, enfin en tout cas même du monde intellectuel. Et d'un coup, il apprend que quelqu'un a la formule pour le degré 3. Il dit, faut que je la mette dedans, ça va être génial, ce bouquin va être fantastique, il va avoir un grand succès, je veux avoir la formule degré 3, que même les Arabes n'avaient pas trouvée. Voilà. Alors, il demande à rencontrer Tartaglia. Après un grand échange de courriers, enfin, il arrive à avoir un rendez-vous, les deux hommes se rencontrent. Et donc, je parlerai de Ferrari après. Et donc, en 1537, il commence à écrire Ars Magna, en toute modestie, on va l'appeler Ars Magna, le livre en question. Et les premiers échanges avec Tartaglia commencent en 1539. Et la rencontre donc, a lieu le 25 mars 1539. Et alors, après un certain nombre d'échanges, de discussions, Tartaglia accepte de donner sa formule, mais en échange, Cardan ne doit pas la révéler, parce que c'était son gagne-pain, Tartaglia, et il ne voulait surtout pas la révéler. Et donc, Cardan accepte le pacte, mais d'un coup, il ne peut pas la mettre dans son livre. Oui, alors je vous dis un peu trop la suite, je n'aurais pas dû l'écrire là. Mais je vais vous donner la formule, pas comme vous l'avez vu, parce que l'écriture que je vous ai donnée, ça, on voit beaucoup plus simplement les choses. Je vais vous la donner en italien, puisque vous faites sans doute tous l'italien, puisque vous êtes ici, à la Corfi. Mais en italien, évidemment, de la Renaissance. Et alors voilà ce qu'il donne à Tartaglia. Il donne une poésie. Quando quel cubo che con le cose appresso si eguaglia a qualche numero discreto, trovan, trovan, c'est un peu du italien du Nord, dui altre differentine esso. Alors, quand le cube avec les choses, la chose, c'est l'inconnu. Hein. Ça a été pris sous aux Arabes d'ailleurs. Pour l'inconnu, on appelait ça la chose consciente. Quand le cube, alors là, donc le X3, appelons-le, avec les choses à côté, est égal à un nombre discret, c'est-à-dire un nombre. Donc quand X3 plus X, ou enfin X3 plus 4X par exemple égale 7, les choses, ça veut dire les choses, il peut y en avoir plusieurs, donc ça peut être 4X, 5X, etc. Trouver deux autres nombres différents d'eux-mêmes, c'est les U et V que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, quelqu'un peut m'aider. Alors c'est le verbe ténérer, prenez, tenez. C'est le futur du verbe ténérer. Questo, bon. Et alors le produit toujours est égal au cube des choses d'altitude. Ah, tout ça, bon, enfin voilà. Il y a toute l'explication. Et quand vous arrivez au bout, vous savez résoudre l'équation de degré 3. Voilà. Bon, alors, Cardan est quand même assez malin. Il comprend en fait l'affaire. Et non seulement il fait ça, mais avec son dénommé. Alors je reviens un tout petit peu en arrière. Il se trouve que quelques années avant, il avait pris à son service un jeune qui s'appelle Ludovico Ferrari. De milieux plutôt défavorisés, et il s'aperçoit que ce Ferrari est excellent en mathématiques, il a des aptitudes absolument extraordinaires. Des trois, entre Tartaglia, Cardan et Ferrari, le meilleur, le plus brillant. Et partant de là, avec Ferrari, il discute, on ne sait pas lequel a fait quoi, mais il discute pour améliorer ce qu'a proposé Tartaglia, enfin, réellement une théorie qui peut être écrite dans un livre. Et puis Ferrari trouve même comment faire celle de degré 4. En fait, par un changement de variable, du degré 4, il passe au degré 3, comme l'autre par l'effet du degré 3 passait au degré 2. Le changement de variable est beaucoup plus simple. En fait, celle du degré 4, finalement, est relativement facile quand on a le degré 3. Enfin, relativement. Quand on a le degré 3. Et donc, finalement, ils ont l'impression d'avoir énormément amélioré ce qu'avait fait Tartaglia.
Excusez-moi. On parle bien de l'équation cubique déprimée, hein, parce que c'est celle que vous avez marquée.
Oui.
Parce que quand vous dites qu'il résolve l'équation du troisième degré, en fait, on parle de celle où il n'y a pas de terme quadratique.
Hein. Oui. Non, mais alors, pour vous répondre à votre question tout de suite, c'est qu'en fait, quand on a celle avec un terme quadratique, un très facile changement de variable vous ramène à une de la forme que j'ai donnée. Donc, vous avez raison. Mais on s'en ramène immédiatement par un changement de variable très très simple, genre x' égale a x plus b, je ne sais plus exactement lequel.
Mais donc, il le savait.
Oui, il le savait. Donc du coup, il savait qu'en résolvant ça, il résolvait toutes les équations du troisième degré. J'espère que j'ai rassuré toute la salle. Mais merci de votre question. Alors, il se trouve que Cardan apprend ensuite qu'un dénommé Scipione del Ferro avait trouver la formule, en tout cas c'est ce qu'on lui dit, bien avant Tartaglia, dans les années 1510-1512, je ne sais plus exactement, hein, avait trouvé la formule. Et donc Cardan se dit totalement délié du secret, puisque il a promis de ne pas révéler ce que Tartaglia lui avait dit, mais si quelqu'un d'autre avant l'avait trouvé, ce n'est pas de Tartaglia, et donc il peut le dire. Donc il rédige en Ars Magna, et Ars Magna sort en 1545, c'est un succès extraordinaire, d'un coup on a l'équation du troisième degré, Cardan devient considéré comme le plus grand mathématicien de l'époque, et avec ce livre qui en plus racontait, bon, toutes les mathématiques c'est beaucoup dire, mais en tout cas énormément d'autres choses, mais donc avec ce point particulier de quelque chose de totalement nouveau, parce que le reste c'était des choses déjà connues. Alors après, évidemment, Tartaglia est foudrage, et c'est surtout un échange de courriers qu'il y a entre Tartaglia, non pas et Cardan, mais le dénommé Ferrari. Et alors les courriers sont... Alors, ils se traitent de tous les noms d'oiseaux, vous pouvez imaginer. Hein, c'est vraiment... Vous les trouvez dans la formule secrète, c'est assez amusant. Pendant une dizaine d'années, il y a des échanges de courriers absolument vengeurs de part et d'autre, chacun considérant que l'autre était un malhonnête, un truand, etc. Et ça s'arrête en 1557 parce que Tartaglia meurt cette année-là. Et Ferrari aussi, en fait, Ferrari, c'est un peu triste parce que sa sœur est, oui, jeune, parce qu'il est de 1522. Hein. Et en fait, il avait une sœur qui était, paraît-il, une veuve éplorée, qui était très malheureuse. Donc, il a été vivre avec elle. Et il semblerait bien que sa sœur l'ait empoisonnée. Et c'est ce qu'on marie aussitôt avec un bonhomme qui avait voulu prendre les œuvres de Ferrari et les publier à son nom. Vous voyez que les histoires là-bas, c'était à l'époque, c'était. On dit qu'il y a de l'insécurité actuellement, vous voyez que d'autres époques ont connu bien pire. Donc je reviens à ça. Voilà Ars Magna qui est publié et Cardan qui devient célèbre pour les mathématiques. Alors, je vais quand même vous dire un petit peu la suite des équations parce que faut voir. Parce qu'elles ont quand même des importances mathématiques. En fait, il y a quelqu'un de beaucoup plus sérieux, donc on ne va pas en parler beaucoup, Raffaele Bombelli, encore un Italien, donc légèrement après, je crois que son livre est paru en 1572, pourquoi ça saute lui ? Oui, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas fait exprès, vous m'excuserez. Voilà, il se stabilise, et en fait, dans la formule qui est au-dessus, vous savez que racine de moins 1, ça n'a pas de sens, il faudrait trouver un nombre qui, multiplié par lui-même, fasse moins 1. Or, quand on multiplie deux nombres, même négatifs, leur produit est toujours positif. Donc on ne peut pas avoir de racine de moins 1. Mais quand on prend la formule, alors c'est dans un cas pour cette équation-là, si on applique la formule, on arrive au bout, 2 plus racine de moins 1 plus 2 moins racine de moins 1, les racines de moins 1, on les règle, et il reste 4. Et racine de moins 1 n'existe pas, mais en l'utilisant, il se règle au bout, et on trouve la solution. Alors, Bombelli, plus d'autres après lui, on dit que c'est des nombres qu'on va appeler des nombres imaginaires, ben, après ils disparaissent, donc c'est très bien, et ça marche. Mais on s'est aperçu par la suite que ces nombres dits imaginaires devenaient très intéressants en mathématiques. On a créé des nouveaux nombres qu'on appelle les nombres complexes. Et ces nombres complexes ont une importance non seulement en mathématiques, mais on les utilise aussi en physique, et deviennent indispensables aux mathématiques, et ont l'avantage que les équations du second degré ont toujours deux solutions, des fois confondues, mais ont toujours deux solutions. Celles du troisième degré ont toujours trois solutions, parce qu'il y a des racines qui sont dites imaginaires. Le mot imaginaire a été inventé par Descartes, d'ailleurs. Et donc voilà, c'est pour vous donner la suite que ces équations du troisième degré ont amené des découvertes fondamentales en mathématiques, qui sont ces nombres complexes. Et puis comme la suite des équations, parce qu'après vous dites c'est le cinquième degré, vous attendez la formule bien sûr. Et bien ils ont cherché pendant longtemps, ils ont cherché pendant très très longtemps la formule pour le cinquième degré. Jusque, c'est l'idée de Pacioli, bien avant pour le troisième degré, c'est le premier, il s'appelle Ruffini, oui j'ai marqué, encore un Italien, oui, fin 18e siècle, on est vers 1770-75, qui commence à se demander si ça se trouve, il n'y avait pas de formule. Et il y a deux mathématiciens au destin tragique, vous voyez, celui-là, il est mort à 27 ans, Évariste Galois, vous savez peut-être, donc il est mort à 21 ans, même pas 21 ans, et qui ont été, alors Abel était le premier à démontrer que les équations du 5e degré, il n'y avait pas de formule générale, et Galois, lui, a trouvé une condition nécessaire et suffisante, c'est-à-dire que une équation a des solutions, si et seulement si certaines conditions qui ont amené à quelque chose qu'on appelle la théorie des groupes en mathématiques, qui est une théorie complètement fondamentale dans toutes les mathématiques. Il était l'initiateur d'une théorie, grâce à ces équations, qui ont bouleversé les mathématiques et qui est utilisée énormément en mathématiques. Les fins tragiques, eh ben lui, mort de la tuberculose à 27 ans, et Évariste Galois, mort en duel, comme vous avez peut-être entendu, à 21 ans, mais il savait qu'il allait mourir en duel, parce qu'il fallait absolument qu'il fasse le duel, parce que son honneur était en cause. Il savait qu'il perdrait parce que l'autre était beaucoup plus fort que lui. peut-être pas en maths, mais en tout cas en maniement d'épée. Et donc il a donné tous ses papiers la veille de sa mort à un ami qui est bon. L'histoire est assez longue. Donc on va un peu quitter les mathématiques à votre grand regret dans ce petit voyage. Et on va parler de Cardan, astrologue. Alors, mais pour lui, il faut voir que l'astrologie, c'était aussi une science. Hein. Pour nous, c'est évidemment pas du tout une science. Et il était bercé dans des croyances magiques, etc. Et donc, il avait appris l'astrologie grâce à son père. Je ne sais pas ce qu'il avait appris exactement. Il en a écrit énormément de livres. Cardan a écrit un nombre de livres énormes, dont la plupart n'ont strictement plus aucun intérêt maintenant. Et donc, il a été appelé d'abord en tant que médecin à peu près dans toute l'Europe. Hein, sa gloire a atterri vers 1550. Il a fait des voyages partout en Europe. Les plus puissants lui demandaient de venir les voir. Et donc, il y a une sommité en Écosse qui l'a appelé. Au passage, on lui a demandé d'aller voir Édouard VI, de faire son horoscope. Vous savez, Édouard VI, c'est le roi qui a succédé à Henri VIII. Hein. Il est arrivé au trône très jeune, en 1547. Il avait 11 ou 12 ans. Et Cardan est venu le voir en 1552, a fait son horoscope, a vu qu'il aurait une très très longue vie. Mais il est mort l'année suivante. Voilà. Donc il était le fils de la troisième femme d'Henri VIII, donc le nom m'échappe toujours. Jeanne Seymour, merci, Jeanne Seymour. Donc troisième femme d'Henri VIII, Jeanne Seymour. Voilà. Et donc là, c'est une grosse erreur, mais après il a trouvé la raison pour laquelle il s'était trompé. Il a dit qu'en fait, finalement, il avait bien fait de mourir à ce moment-là, parce qu'il devait mourir à ce moment-là, mais qu'il s'était trompé dans ses calculs. Et qu'on retombe toujours sur ses pieds quand on veut. Alors il écrit un livre, un commentaire de l'astrologie judiciaire de Ptolémée, avec l'horoscope de Jésus-Christ dedans. Et on verra que ça coûtait cher après. Puis en 1756, il était pris de transe extatique. Alors il souffrait de la goutte, il souffrait énormément. Et d'un coup, il était pris en transe extatique et il se dédoublait. Et il pouvait discuter avec lui-même assez souvent, et d'un coup, ses douleurs disparaissaient. Et il pensait vraiment, enfin bon, vous en pensez ce que vous voulez. Et il a écrit aussi un ouvrage sur la divination par les traits du visage. Hein. Il y en a d'autres qui ont suivi après, c'est un des premiers qui a lancé ça. Donc je vous ai mis Édouard VI, et puis Ptolémée, donc, le savant de l'Antiquité. Alors si on va reparler un peu de mathématiques. Alors, il écrit un autre livre qu'on considère comme le premier livre de calcul des probabilités. Il s'appelait De Ludo Aleae. Alors, Ludo, Ludus, le jeu en latin, Alea, le dé, Alea iacta est, des sont jetés. Hein, donc, au sujet des jeux de dés, mais aussi des jeux de hasard, en fait, de manière générale. D'ailleurs, le mot hasard, vous savez, lui, il vient de l'arabe, az-zar. Az, c'est l'article, zar, c'est la fleur. Et sur les dés, il y avait un endroit où il y avait une fleur, et on gagnait si on tombait sur la fleur. Donc hasard, c'est la fleur en arabe. Voilà. Donc, vous voyez, c'est toujours le jeu de dés qui a été le début de ce genre de choses, de probabilité. Et donc, ce qui est intéressant, au niveau mathématique, ça ne va pas très loin. Pour lui, d'ailleurs, il n'écrit pas un livre de mathématiques. Il serait un petit peu étonné qu'on le classe dans les livres de mathématiques. Pour lui, il a beaucoup joué. Il dit qu'au moment, il a joué... Il dit, pendant 25 ans, j'ai joué quasiment tous les jours de ma vie. Quand il dit jouer, c'est jouer de l'argent. Voilà. Et il avait acquis un certain nombre de calculs qu'il faisait, parce qu'on faisait, par exemple, on lançait 2 dés, on pouvait savoir, l'un pariait que il y aurait, sur les 2 dés, il y en aurait au moins un qui ferait 1. Ou alors qu'il y en aurait au moins un qui ferait 1 ou 2. Alors après, on pariait, il fallait savoir ce qu'on allait parier l'un et l'autre, parce que si on dit, je lance 2 dés, moi je dis, si il y a au moins 1, je gagne, s'il n'y a pas de 1, c'est quelqu'un d'autre qui gagne. Mais la mise doit être relative à la chance de gagner. Donc il faut calculer les chances de gagner. Donc avec 2 dés, on a 36 possibilités. Mais qu'il y ait 1, il y en a... Alors c'est le premier qui fait des dénombrements. Il y en a 11 parce que le premier dé fasse 1, il y a 6 cas. Que le deuxième dé fasse 1, il y a 6 cas. Mais il y a un cas commun, c'est du double 1. Donc il est compté 2 fois. Donc finalement, il y a 6 plus 6 moins 1. Donc il y a 11 cas. Pour 1 et 2, il a commencé à le faire. Donc il a commencé à faire du dénombrement. Et on parle souvent après de Pascal et d'autres qui ont fait du dénombrement. Donc ça avait sans doute été fait aussi dans d'autres civilisations, en particulier en Chine et chez les Arabes. Mais il y a des choses intéressantes. Et surtout, il se pose la question d'une probabilité. C'est la première fois qu'on en parle. C'est-à-dire que si faire un 1, il y en a 11 cas et il y a 36 cas au total, on pense qu'ils ont la même chance d'arriver. Donc la probabilité, c'est 11 sur 36. Et que l'autre gagne, c'est 25 sur 36. Et c'est le premier qui fait aussi à se dire il faut que les gains soient inversement proportionnels aux chances de gagner. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a juste Moi, je pariais que ça fait 6 et vous pariez que ça ne fera pas 6. Et c'est normal que celui qui parie sur le 6, il mise moins que celui qui parie sur l'autre, puisqu'il faut. Et la proportion doit se faire de telle sorte que ça soit égal. C'est si on multiplie la probabilité par la mise, soit égal à l'autre la probabilité par la mise. Et c'est le début de ce qu'on appelle l'espérance mathématique. L'espérance mathématique, ce n'est pas une espérance. L'espérance mathématique, c'est un calcul qui regarde la probabilité moyenne de gagner. Enfin, s'il y a des matheux dans la salle, ils doivent être un peu choqués de ce que je dis. Hein. Voilà. Mais pour bien faire comprendre les choses. Et donc c'est grosso modo ça qu'on peut voir dedans. Malheureusement, son livre n'a été publié, comme je l'ai dit, que 99 ans après sa mort. Quand on prend ce 1564, hein, en 1664, dans 87 ans, j'ai écrit. Oui, c'est une erreur totale, parce qu'en fait j'ai changé la date de la parution. Je me suis trompé sur la date de parution, j'ai pas oublié de changer ça. Alors, vous changez le 87, après, bon, quasiment un siècle après sa mort. Et il se trouve que 6 ans avant, en 1657, un dénommé Huygens, Huygens pour les Français, comme je vais recevoir un Belge après-demain, j'ai envie de te visiter, puisque Guillaume Budet invite un mathématicien belge, là, quand on lui dit Huygens, il hurle, hein, pour parler de la mathématique du chat, quelqu'un de très marrant et très intéressant. Et donc Huygens ou Huygens publie un livre qui lui vraiment s'appelle Ratiocinis de Ludo Aleae, ou des Ratiocinis de Ludo Aleae, je ne sais plus dans quel ordre, dans lequel il reprend ces choses-là. Donc finalement, l'apparition, c'est 6 ans après un livre qui était plus avancé. Donc finalement, ce qu'a fait Cardan à l'époque n'a pas eu un gros impact, puisqu'il n'avait pas été publié, on retrouvait. Et ce Huygens, c'est lui qui invente le mot espérance. Il hésite entre espoir et espérance. Il invente le mot espérance, il le met dans son livre, et il définit ce qu'on appelle maintenant en mathématiques l'espérance mathématique. Et avec des échanges, il parlait de la santé de son père avec son frère Lodewijk, et en échangeant l'un et l'autre, ils n'étaient pas d'accord pour savoir quelle espérance on pouvait avoir pour la vie de leur père. Ils ont fait des calculs, hein, et en fait, Lodewijk, le frère de Christian Huygens, proposait la vie moyenne, et Huygens a proposé ce qu'on appelle maintenant l'espérance de vie, qui est encore utilisée de nos jours pour ce qu'on vous dit, l'espérance de vie, c'est un calcul mathématique très précis, et non pas de Salimé Gondi que vous sortez journaliste sur l'espérance de vie. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur les calculs de probabilité. Ça ne va pas très loin, mais c'est le premier livre de probabilité. Le vrai calcul de probabilité, on considère que c'est au siècle suivant, par des échanges de lettres entre Blaise Pascal et Pierre de Fermat, au siècle suivant, dans les années 1640-50, je crois, à peu près, où... D'ailleurs, Cardan en avait déjà parlé, il y avait le problème des parties, qu'on appelle le problème des parties, c'est le début d'échanges entre eux, mais Cardan en parle, j'en ai presque un peu parlé, c'est savoir, si on fait un jeu, on fait une mise, la même mise, mais c'est un jeu égal, d'ailleurs j'aurais dû le dire, Cardan était très très soucieux de justice dans les jeux, et donc il s'inspirait, paraît-il, de la justice d'Aristote, pour dire que le jeu doit être égal. C'est pour ça qu'il regardait cette espérance, il disait, hein, si vous jouez et que vous avez plus de chances de perdre que de gagner, vous êtes fou de jouer, et sinon, vous êtes malhonnête de jouer avec un autre. Donc, il était pour l'équité dans le jeu qui est la même chance. Même si je pense qu'il avait dû en profiter de ses compétences mathématiques avant. Mais enfin bon, faites ce que je dis et non pas ce que je fais est très ancien. Et le problème des parties, c'est de dire, voilà, je fais un jeu, on parie, mais égal. On a les mêmes chances de gagner. On parie, c'est un jeu par exemple en 5 parties, mais au bout d'un certain nombre de parties, moi j'en ai gagné 3, vous en avez gagné 2. Dans quel rapport on doit faire la mise, c'est-à-dire qu'on doit rendre l'argent de la mise, et ce rapport doit être proportionnel aux probabilités qu'on a de gagner, sachant qu'on a chacun une chance sur deux de gagner les parties. Et c'est ça qui a été considéré comme le début du calcul des probabilités au siècle suivant. Voilà pour le... Alors, on va terminer par la triste fin de vie de Cardan. Donc, il a eu 4 malheurs dans sa vie. D'abord, sa femme Lucia, dit-il. Ensuite, son fils Jean-Baptiste, qui a épousé une garce, d'après lui. Une fille qui en plus prétendait que ses enfants n'étaient pas de lui, le maltraiter, le voler, etc. Et donc un jour, foudrage, le fils Jean-Baptiste tue sa femme, et malgré les bons avocats qu'on a pu prendre, a été condamné à mort, exécuté. Donc ça a fait beaucoup de peine, c'était son fils préféré. Hein, et d'ailleurs il écrit un ouvrage sur le crime, De utilitate ex adversis capienda, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est sûrement en lien avec ça. Il avait un autre fils, Aldo, qui était celui qu'il n'aimait pas beaucoup, qui a tourné mal, et qui, après, aidait du secrétaire de Cardan, l'a volé, parce que la seule qualité qu'il a prise, ou le défaut qu'il a prise de son père, c'est le jeu. Et donc, il avait besoin d'argent, besoin d'argent, besoin d'argent. Donc, il a considéré que l'argent de son père, comme son père était en fin de vie, c'était un peu à lui, et il a passé son temps à le voler. Et alors, Cardan l'a dénoncé, Aldo et Euphonia ont été condamnés, et donc, du coup, Aldo dénonce son père auprès du Saint-Sépulcre pour dire qu'il avait fait l'horoscope de Jésus-Christ. Alors, que fait le pape? Le pape l'emprisonne, et c'était une des autres épreuves de sa vie. Donc, les épreuves de sa vie, sa femme, son premier fils, son deuxième fils, et son internement. Le fait que sa fille, j'ai marqué, non?
Oui,
est morte de la syphilis, c'était une prostituée morte de la syphilis, ça a moins attristé apparemment, puisque ce n'était pas dans les quatre choses qu'il avait. Et bon, il n'est pas resté très longtemps en prison, mais il a très très mal vécu. Et après, bizarrement, il est allé voir le pape, je crois que c'est Grégoire XIII, c'est celui du calendrier grégorien, hein, qui lui a donné une pension. Et il a fini ses jours à Rome. Il a écrit en 1575 sa vie De Propria Vita. Et puis, il a fait son horoscope et a décidé qu'il devait mourir le 20 septembre 1576. On ne sait pas s'il s'est suicidé, s'il est mort comme ça, etc. Mais en tout cas, il est mort le jour dit. Et là, il a fait un bon horoscope. Voilà. Voilà. Alors, je vous ai juste laissé quelques citations de Cardan. J'adore la première. Quand tu veux te laver, prépare d'abord la serviette pour t'essuyer. Bon, je vous laisse lire les autres et je vous remercie de votre attention. Voilà, si vous avez des questions sur la vie de Cardan.
Il est mort à quel âge ?
75 ans. Enfin, 1500 à 1576, or...
Non, mais l'horoscope de Jésus-Christ, moi, ça m'amuserait beaucoup de voir ça.
Oui, j'ai... Fais attention, hein, je pense que le pape est vigilant.
Non, mais j'imagine que ça doit pas être dans le domaine public.
Mais j'avoue, je l'ai jamais vu. Je sais pas si on trouve sur Internet, il faudra chercher.
Il faudra.
C'est une demande de précision, pour voir si ma mémoire est bonne. Luca Pacioli, dont vous avez parlé, est-ce bien celui qui a écrit et lancé la théorie, qui était connue par d'autres, de la comptabilité en partie double?
Oui, tout à fait, exactement. C'est ça. Tout à fait. Il a écrit, et d'ailleurs on le considère souvent comme un précurseur de la comptabilité moderne. Et tout à fait, c'est ce Pacioli-là.
Mais ça existait quand même déjà avant que Luca Pacioli n'en parle.
Que les entreprises l'utilisaient,
mais déjà,
qui reprend le système.
Oui, mais il a aussi inventé quelque chose, là je ne pense pas, non je ne l'ai pas là, mais en effet, sur la comptabilité, c'est celui qui a fait le plus avancer, on l'a très longtemps considéré comme le père de la comptabilité moderne, Luca Pacioli. Les deux œuvres, c'est la comptabilité et puis des divina proportionnés, mais dans le second, en fait, il reprend énormément des choses qui ont été connues avant. Cet ouvrage, il est avant tout intéressant par les dessins de Léonard de Vinci, en particulier, vous avez tous les polyèdres platoniciens, les solides platoniciens qui sont en creux, là, qui sont très très beaux dessins de Léonard de Vinci. Et puis ce travail entre ces deux génies, c'est quand même passionnant. Et sur la comptabilité double, en tout cas, c'est lui qui l'a vraiment développé, expliqué. Et il a inventé encore autre chose sur la comptabilité, mais je ne me souviens plus.
Vous nous avez montré la résolution d'une équation sous forme de verre, comme on le sommet avec des... Est-ce qu'à l'époque de Cardan, les mathématiciens utilisaient des signes mathématiques d'aujourd'hui
Pas du tout. Pas du tout. C'est très incompréhensible pour nous maintenant, parce que les signes sont arrivés progressivement. Le signe égal, je crois que c'est 1554 par un anglais qui s'appelait Record et qui a mis dans une phrase en vieil anglais, en anglais je ne me rappelle plus, et je vais noter, pour éviter de répéter énormément de fois est égal à, je vais utiliser, il met le symbole, deux petites barres, parce que deux telles choses ne peuvent pas être plus égales. Deux petites barres, elles sont égales entre... voilà. Deux telles choses ne peuvent pas être plus égales. Et alors ce symbole, alors après il ne suffit pas que quelqu'un l'utilise, parce que chacun utilise ses symboles, après il faut que le symbole survive, et c'est parce que des grands mathématiciens par la suite ont trouvé ce symbole astucieux, et l'ont utilisé par la suite, en particulier je crois Euler, etc. Donc vous voyez, le symbole égal date du milieu, même d'un, enfin, 1554, c'est la vie de Cardan, d'autres sont même plus récents, mais François Viet en a inventé, enfin d'autres en a inventé, puis... Après, souvent, ils mettaient racine avec un R, racine cubique, enfin, et puis chacun avait ses notations, donc on passait difficilement de l'un à l'autre. Donc les formules telles qu'on les voit là,
pour nous, elles sont totalement illisibles. Enfin, il faut vraiment être spécialiste, apprendre à faire pour les comprendre. Vu comme ça, elles sont totalement illisibles. C'est en quoi on voit que la manière de noter, vous avez raison de poser cette question, la manière de noter les choses permet énormément de gains de compréhension. Vous voyez qu'on met un égal et qu'on voit tout de suite que les deux choses, c'est la même chose des deux côtés. C'est beaucoup plus simple que est égal à. Et tout dans une phrase. Voyez, donc.
Alors, une question du sort de l'Italie et du XVIe siècle. À partir de quand est-ce que, globalement, disons, les mathématiciens européens ont commencé à utiliser des, disons, une formulation à peu près unique et symbolique avec des chiffres et des lettres?
C'est petit à petit, en fait, que c'est arrivé. C'est pas un jour où on s'est réveillé avec plein de chiffres et de lettres. Si vous prenez un texte de 1500, vous n'aurez à peu près pas de signes. Et puis, petit à petit, je vous dis, l'égal est arrivé. Mais quand je dis est arrivé, celui qui l'a dit est 1554, mais ça ne veut pas dire que tout le monde en 1555 utilisait égal. Il a fallu au moins un siècle avant que ça s'impose partout. Après, il y a le inferiora, on mettait aussi des abréviations latines, des choses comme ça. Et petit à petit, moi j'irais vers le 18e siècle avec Euler, on commence vraiment à avoir un langage qui nous est familier. Qui nous est familier, on commence même fin 17e, vous voyez Leibniz qui commence à mettre, alors on ne le voit plus, mais le symbole d'intégrale c'est un S en fait, parce que somme, puisqu'on somme au départ des aires de petits rectangles, donc on prenait un S, mais comme on les écrivait avant, où c'est un grand trait comme ça, c'est le symbole intégral que l'on a maintenant, et les racines, tout ça, c'est... Je dirais maintenant, au XVIIIe siècle, on comprend les textes. On n'a plus de... Et c'est arrivé petit à petit entre 1550 et 1750 ou 1800.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui fait la réputation de Cardan, c'est-à-dire la transmission mécanique par rapport au développement de ces équations mathématiques?
Cardan, la réputation de Cardan, moi, pourquoi j'ai eu envie de parler de Cardan, c'est pas pour le joint de Cardan, c'est d'abord pour cette histoire de résolution des équations et ces débats entre défis entre mathématiciens. Je trouve que c'est tellement différent de ce qu'on voit maintenant, et c'était montrer comment la recherche se faisait au XVIe siècle dans l'Italie du Nord. Ça n'a rien à voir ni avec Al-Khwarizmi chez les Arabes, ni avec Évariste Galois ou Abel, et a fortiori maintenant. Et donc, voir comment était la science. Et l'autre fait intéressant, c'est que en tant que savant, on le voit encore complètement englué dans la magie et la croyance, tout en sortant des choses mathématiques, en ayant un certain rationalisme. Et ça, c'est 100 ans avant Descartes, 80 ans ou 100 ans avant Galilée, vous voyez. Et donc, il a fallu encore 100 ans pour que se mature vraiment la conceptualisation de la démarche scientifique. Mais ils ont quand même réussi à trouver des choses dans leur magma de choses. Il a écrit des tonnes de choses, dont la plupart de choses maintenant sont totalement illisibles et sans intérêt. Enfin, on dirait, mais qu'est-ce que c'est que ce magicien, il croit des choses, il exprime des choses. C'est un moment où encore on allait dire qu'on donnait des explications aux choses sans avoir aucune preuve, quoi. C'est pour ça quand Léonard de Vinci annonce que les reliefs changent, c'est intéressant, en soi. Hein, parce que l'idée, personne n'avait eue. Mais après, ils s'inventent des histoires, ils veulent dire comment ça change. Et lui, ça a été comment les espèces changent. Mais alors, il invente des choses pas possibles. Mais déjà, avoir l'idée que les espèces pouvaient évoluer, c'était déjà assez étonnant et novateur. Donc, c'est ça où on leur voit des éclairs de génie. Je pense que j'ai mis la phrase des pierres précieuses au milieu des fientes de chameau de Virunus. Je trouve que c'est un peu ça. Quoi, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est on voit d'un coup le lien entre les croyances médiévales et le rationalisme scientifique, mais ça met beaucoup de temps, vous voyez, parce que là, il est peut-être plus astrologue que mathématicien, Descartes est bien plus mathématicien, mais Newton fait encore de l'alchimie, par exemple. Vous voyez, on voit le temps qu'il faut. Newton, c'est la deuxième moitié du XVIIe siècle, donc c'est vraiment deux siècles après Cardan. Vous voyez, il faut un grand nombre d'années avant qu'on arrive au rationalisme, bon, alors après... 18e siècle, le rationalisme arrive complètement, il est enseigné, il y a des écoles qui se créent, puis nous ne parlons pas d'après la Révolution. Mais il faut voir des siècles pour que ça change.
Et pourquoi on a donné à ce système de transmission de mouvement le nom de Cardan ?
Parce que c'est lui le premier qui l'explique bien dans un livre. Donc ça doit être De Subtilitate en 1550, je l'ai noté avant, et c'est le premier qui l'explique. Mais l'a-t-il repris sur avant ? Je crois qu'on en a des exemples, je ne sais pas. Mais c'est pour ça qu'on a donné le nom de Joan Cardan. Et ça, du coup, il est connu. C'est un nom du coup connu. C'est intéressant d'avoir un nom que connaissent les gens. Ils le connaissent pas. La plupart ne savent même pas que c'est un bonhomme, quoi. C'est comme poubelle, quoi. On sait pas que c'est un bonhomme. Et d'un coup, on sait que c'est un homme, enfin, haut en couleur, je pense.
Est-ce qu'il y a eu des applications techniques avant le Covid?
Ben, je pense qu'il a créé, c'était pour des applications techniques à l'automobile, mais je ne suis pas spécialisé là-dedans. Je pense que ça a servi avant l'automobile, parce que c'est... Ben, d'ailleurs, on s'est déplacé aussi en véhicule, peut-être pas automobile, mais mobile, bien avant l'automobile, donc certainement avant.
Si c'était pour le carrosse de Charles Quint,
vous avez... Ah, ça, c'était suspension de carrosse. Ça, il l'a utilisé directement. Il l'a inventé pour Charles Quint.
En complément de la question de Yves, effectivement, cette invention de Joan Cardon n'avait aucune utilité à l'époque. Parce qu'on était sur des voitures à chevaux, il y avait des moulins à eau, des moulins à vent. Je ne vois pas dans quelle technologie ça pouvait s'inscrire.
J'ai pas vu, moi personnellement, j'ai pas vu d'application directe, donc vous avez sans doute raison. Pourquoi a-t-il raconté ça? Je ne sais pas.
Peut-être pour les moulins.
Peut-être.
Et dans les machines dessinées par Léonard de Vinci, est-ce qu'il y a l'équivalent du Joan Cardan?
Je pense pas, parce que Léonard de Vinci est avant Cardan, quand même. Léonard de Vinci est mort en 1519, comme vous savez, on en parle beaucoup, et Cardan n'avait que 18 ans quand Léonard de Vinci est mort.
Effectivement, on a trouvé dans les documents de Newton plus d'alchimie que de physique, ça c'est incontestable, et avant 1700.
Donc, merci à tous pour votre présence. Je trouve cette époque passionnante et ça m'a fait plaisir de le faire devant vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, j'en termine.
Merci Bertrand.